So I call your name when you ask me.
Il est 12h. Le journal du midi. Sonia Nzian.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Célébration hier de la fête du travail. Les centrales syndicales de Côte d'Ivoire ont exprimé leurs attentes au gouvernement ivoirien. Au cœur des revendications cette année, la revalorisation des salaires et le respect du salaire minimum. Sur le continent, les combats qui font rage au Soudan rendent la situation humanitaire catastrophique. De retour en Côte d'Ivoire pour un dossier d'actualité, nous parlerons de l'accès des femmes à la propriété foncière dans l'ouest du pays. Ce sera avec Stéphane Adams. Et puis en fin d'édition, Soro Adams recevra en invité de la rédaction le vice-président du FPI chargé des questions électorales. Kwaku Kra dira entre autres si les listes proposées par son parti pour les élections locales sont susceptibles de changer. Ceci au vu de la signature de partenariat aujourd'hui avec le RHDP. La 130e édition de la fête du travail, présidée par le Premier ministre Patrick Hachi, a été célébrée officiellement hier à Abidjan Plateau. À cette occasion, les organisations syndicales ont exprimé leur reconnaissance au président Alassane Ouattara, non sans oublier leurs revendications. Des détails avec vous, Jean-Claude Mabéa.
Porte-parole des centrales syndicales, Soro Mamadou, secrétaire général de la centrale syndicale Humanisme, qui a traduit leur infinie gratitude et reconnaissance au chef de l'État et à l'ensemble du gouvernement pour les acquis sociaux obtenus, a exhorté toutes les parties à poursuivre les négociations dans le cadre du dialogue social, atout majeur du climat social apaisé observé depuis quelques temps.
Mesdames et messieurs les membres du gouvernement, éprouvons le dialogue social, car réussir, c'est avancer ensemble, c'est créer des espaces de concertation, c'est dialoguer. Mesdames et messieurs du patronat, demandez s'il vous plaît à vos membres qui hésitent encore à s'engager dans le dialogue social qu'il est temps que nous le prouvions ensemble.
Les centrales syndicales ont pris l'engagement de s'inscrire dans la voie de la confiance et du dialogue social. Toute chose qu'a salué le Premier ministre Patrick Hachi, non sans faire les annonces suivantes.
Concernant la revalorisation des salaires minima catégoriels conventionnels qui viennent subséquemment après que le SMIC ait été arrêté, j'ai le plaisir de vous annoncer que ces discussions sont terminées et ont abouti à un accord d'augmentation allant de 9 à 18% pour les différents secteurs d'activité. Cher président et secrétaire général de centrale syndicale, continuons. Continuons à travers un dialogue social responsable dans l'identification et la mise en œuvre des réformes à entreprendre. Nous avons pris bonne note des nouvelles revendications présentées ce jour par les centrales syndicales.
Signalons que les centrales syndicales ont consigné leurs doléances dans des cahiers remis au Premier ministre.
Restons dans l'esprit de la célébration de la fête du travail. À Bouna, les centrales syndicales ont également saisi l'occasion pour mettre en lumière les difficultés des travailleurs. On en sait plus avec Jérôme Kouassi, notre correspondant dans la région du Bounkani.
Le directeur régional du travail de la région de Bouna a évoqué quelques difficultés auxquelles sont confrontés les fonctionnaires affectés de l'État. Tiekoura Gervais.
On a été un peu très traumatisé par des véhicules qui ont été endommagés par-ci par-là, mais Dieu merci, c'est un vieux souvenir. Aujourd'hui, il y a les conditions d'hébergement, il y a les conditions de déplacement, certains endroits où qui sont difficiles d'accès et les conditions dans lesquelles nous travaillons souvent, c'est un peu difficile.
Pour Kamara Lagi Seydou, il n'y a plus de peur à organiser des manifestations de masse du fait de la présence de l'État cas avec le programme social du gouvernement et de la sécurité renforcée à cette frontière. Il est le président de la jeunesse communale de Bouna.
Il y a pas mal d'infrastructures, notamment l'État a déployé pas mal de structures qui arrivent à former les jeunes, financent les jeunes dans les projets. Il y a la présence des forces de l'ordre qui sont lourdement équipées. Et aujourd'hui, il y a une bonne collaboration entre les forces de l'ordre et la population. Donc du coup, on n'a pas peur.
En suivant la logique de l'évolution de la lutte syndicale pour les droits, Doumbia Yakuba, le préfet des régions, a exhorté les fonctionnaires et autres travailleurs à opter pour la négociation en toutes circonstances.
En tout cas, pour ce qui concerne la Côte d'Ivoire, nous sommes passés de la phase de la confrontation, de l'opposition à la négociation qui peut aboutir même à certains moments à la collaboration. C'est ce qui produit les résultats que nous connaissons. Nous vous encourageons à suivre cette voie.
À la fin de la cérémonie, un cahier de doléances a été remis au préfet des régions par Nguessan Franck, porte-parole des syndicats de Bouna. Jérôme Kouassi, Bouna, Radio de la Paix.
À Daloa, toujours pour la fête du travail, les centrales syndicales du Haut-Saint-Sandra ont relevé les efforts du gouvernement pour améliorer leurs conditions de vie et de travail. Elles ont également fait des doléances, comme nous l'apprend ici Jean-Noël Kwame.
Le secrétaire général de l'UGTCI du Haut-Saint-Sandra et du Haut-Rodougou, Sonzaï Albert, a dénoncé la cherté de la vie et la non-application des textes en matière de droit du travail.
Nous avons la cherté de la vie qui continue. Le prix du riz, de l'huile et de l'eau, tout ça, ne faut que s'augmenter. Que les décisions du SMIC, du SMAG et autres soient appliquées sur le terrain. Si le gouvernement prend des décisions qu'on ne peut pas appliquer, c'est pas bien.
Dans son intervention, Dobé Patrick, secrétaire régional de la centrale humaine, a demandé le paiement régulier des salaires par les entreprises privées.
On ne peut pas comprendre que 1er mai 2023, on ait encore des sociétés qui ne payent pas leurs travailleurs. Ça, c'est inadmissible.
Le secrétaire général de la centrale Dignité, Kofi Boadi, a pour sa part insisté sur le phénomène de la non-déclaration des travailleurs à la Caisse nationale de prévoyance sociale. Yohou Yacinthe, le directeur régional du travail, a invité les partenaires sociaux au dialogue et au respect.
Aux travailleurs, il faut qu'ils exécutent leur contrat de travail avec conscience professionnelle. Aux employés, les travailleurs ne sont pas des hommes inférieurs. Et c'est dans le respect de tous les tests que nous pouvons développer, que nous pouvons aller à l'émergence.
Prenant la parole, le secrétaire général de préfecture du Haut-Saint-Sandra, Yaya Bamba, a pour sa part rassuré l'ensemble des acteurs sur l'engagement du gouvernement à tout mettre en œuvre pour l'amélioration des conditions de vie et de travail. Il a par ailleurs invité l'ensemble des populations au dialogue et au renforcement de la cohésion sociale. Jean-Noël Kwame, Daloa, Radio de la Paix.
À présent, les échos de la fête du travail du côté de Divo, au centre des revendications, fin des coupures d'eau dans certains quartiers de la ville, renforcement de la sécurité urbaine, la bonne marche des feux tricolores. Abel César Cassin nous en dit plus.
Une douzaine de corporations de travailleurs du public et du privé ont défilé pour terminer sur l'esplanade de la préfecture de Divo devant les officiels. La directrice régionale de l'emploi et de la protection sociale, Yapo Blandine, épouse Indri, a profité de ce rassemblement pour féliciter le privé. En voici les raisons.
Face aux sacrifices consentis et à leur synergie d'action, en se conformant malgré les difficultés engendrées par la COVID à la législation et à la réglementation en vigueur, aux fins de préserver les emplois privés. Féliciter les employeurs privés qui ont pu maintenir la plupart de leurs salariés.
Le porte-parole de l'UGTCI, l'Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire, s'inquiète de l'insécurité à Divo. Kwame Roger.
Cette insécurité perturbe le sommeil paisible des citoyens.
Kofi Olivier de la FESACI dénonce certaines pratiques en cours.
Il existe toujours dans le Lac-du-Bois des entreprises qui utilisent les travailleurs sans les déclarer à la CNPS.
Voici les clarifications du préfet des régions à propos des coupures d'eau évoquées par un autre syndicaliste, Kwaku Assoma.
Le problème d'eau aujourd'hui est créé par le problème d'électricité. Deux unités compactes qui prennent l'eau de la rivière Bouba, il s'est trouvé qu'avec les coupures intempestives, ont été endommagées.
La mise en marche des feux tricolores du carrefour de la préfecture à cause des risques élevés d'accidents à cet endroit, n'a pas été passé sous silence non plus par les syndicalistes à l'unanimité de Divo. Abel César Cassin, Radio de la Paix.
Vie des partis politiques, le RHDP, le parti présidentiel et le FPI, signent ce mardi 2 mai à Abidjan un accord de partenariat selon un communiqué conjoint des deux formations politiques. À l'issue de plusieurs séances de travail réunissant les membres de leurs directions respectives, le RHDP et le FPI se sont accordés sur les enjeux, le contenu et les modalités d'un partenariat pour, entre autres, consolider la réconciliation nationale. C'est ce que rapporte en substance ce communiqué conjoint. Parlons à présent des élections locales et régionales du 2 septembre prochain. Le FPI, Front Populaire Ivoirien, a dévoilé ses listes pour 194 communes et 30 régions de Côte d'Ivoire. En attendant les résultats des urnes, le FPI montre qu'il a encore des ressources, selon le politologue Dr Newton Tawa, que tout de suite nous écoutons.
Le Front Populaire Ivoirien regorge de nombreux cadres où est capable de se régénérer, donc montrer sa capacité à couvrir tout le territoire national. Le Front Populaire Ivoirien est capable de trouver en son sein, malgré le départ massif de cadres dont il a été victime ou bien qu'il a connu, donc le parti est capable de présenter des candidats aussi valeureux dans toute la Côte d'Ivoire.
Donc c'est un parti avec lequel il faut compter.
Il faut compter avec le Front Populaire Ivoirien, c'est ce qu'il démontre comme capacité. Il faut compter avec.
Proposer des candidatures. Et maintenant, à l'arrivée, il faut bien gagner les élections.
Ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Je pense que le parti au pouvoir a présenté des candidats dans toutes les localités, dans toutes les communes de Côte d'Ivoire. Et le PPACI a fait sortir sa liste de candidatures. Il y a des localités de la Côte d'Ivoire où il n'a pas pu présenter des candidats. Mais le Front Populaire Ivoirien a présenté des candidats qui couvrent tout l'ensemble du territoire. Pour le moment, nous sommes au stade de présenter des candidats. Ce qui démontre là, c'est qu'il est capable d'avoir des candidats dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. C'est déjà ça. C'était un challenge.
Autre constat, c'est le fait de choisir des candidatures féminines.
En termes de promotion de la femme à l'interne, pour ce que nous voyons sur les listes, là, le Front Populaire est loin devant. Hein.
À l'instant, le politologue Dr Newton Tawa, joint par Constant Maillet. La 16e édition de la Journée mondiale du paludisme a été organisée le vendredi 28 avril dans l'Agnébi Tiassa. La célébration officielle en Côte d'Ivoire a tourné autour du thème « Exploiter l'inondation pour réduire la charge mondiale du paludisme et sauver des vies ». Paul-Bénédicte Bolou pour le compte rendu.
Le 5e vice-président du conseil régional de l'Agnébi-Tiassa a remercié le ministre de la Santé pour les actions menées dans la région à Dou-Balé.
Au niveau local, monsieur le ministre, en votre qualité de président du conseil régional, vous avez fait du secteur de la santé l'une des priorités de votre mandature. Cela s'apprécie à travers les importants investissements réalisés dans la construction de dispensaires, de centres de santé et leur équipement en matériaux biomédicaux, soit des investissements évalués à environ 540 millions de francs CFA de 2019 à 2022. Je voudrais réitérer toute la gratitude de la région à vous, monsieur le ministre de la Santé, et à tous nos partenaires au développement qui nous accompagnent dans cette passionnante aventure.
Concernant les actions menées par les partenaires du système de santé dans la lutte, le représentant résident de l'OMS en Côte d'Ivoire.
Cette solidarité à distance permettra de venir à bout de cette pandémie. L'objectif mondial est de réduire d'au moins 90% le nombre de nouveaux cas et de décès dus au paludisme d'ici à 2030. Nous en sommes loin, mais il y a des espoirs.
Le principal moyen dans cette lutte demeure la moustiquaire imprégnée, le ministre de la Santé, Pierre Demba.
Nous avons pris des mesures de prévention telles que la moustiquaire imprégnée d'insecticides à longue durée d'action. C'est très confortable et je voudrais vous demander tous de dormir sous les moustiquaires imprégnées pour ne pas attraper le paludisme. Car c'est le principal moyen de prévention contre les piqûres des moustiques. C'est distribué gratuitement aux femmes enceintes et aux enfants de moins de 5 ans dans tous les centres de santé publics.
Rappelons que cette journée se tient chaque 25 avril de chaque année.
Hors de nos frontières, les combats acharnés se poursuivent ce mardi au Soudan entre l'armée et les paramilitaires en guerre pour le pouvoir, ignorant une trêve constamment violée. La communauté internationale s'alarme d'une situation humanitaire qui vire à ce qu'elle qualifie de catastrophe, rapporte l'AFP. Retour en Côte d'Ivoire pour un dossier d'actualité aujourd'hui consacré à l'accès des femmes à la propriété foncière dans l'ouest du pays. Le projet d'appui à l'accès des femmes à la propriété foncière initiée par le gouvernement ivoirien et soutenue par l'USAID est actuellement dans sa phase pilote. On en sait plus dans un dossier d'actualité que nous propose aujourd'hui Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tonkpi.
Mon souci est qu'aujourd'hui, la terre est finie. Les hommes ont tout vendu. Il faut dire que quand on parle des ventes de forêt, là, les femmes ne vendent pas la forêt. C'est les hommes là qui vendent la forêt.
Cette problématique posée, l'accès des femmes à la terre, Ghislaine Koulibaly, spécialiste en genre, représentant le chef du dit projet, a relevé l'importance de ce projet, non sans indiquer comment le village de Dinéguiné en a été bénéficiaire.
Ce que nous voulons à Dinéguiné ici, c'est le développement. C'est la paix. Passe pour nous par la terre. Il faut absolument que les hommes et les femmes soient associés à la terre. On ne doit pas exclure quelqu'un. Ce projet a démarré en 2021 et il va prendre fin en 2024. Et c'est un projet pilote. Le gouvernement ivoirien a décidé que dans la phase pilote, l'Ouest soit retenu. Le gouvernement ivoirien a dit choisissez Dinéguiné. Nous sommes à Dinéguiné pour vous apporter la paix, le développement par une gestion de la terre.
Aider dans cette initiative par la clinique juridique de Mans, représentée par le juriste Arsène Douabi, fait des précisions.
Le message, c'est que nos populations puissent comprendre que la loi ivoirienne a prévu des mécanismes pour que, en matière de succession, les choses soient faites comme la loi même le prévoit. Une fois que vous faites quelque chose qui va à l'encontre de la loi, bien évidemment, il y a des sanctions qui s'ensuivent. Mais l'objectif, c'est de faire comprendre aux populations que la femme, comme l'homme, a des droits à la terre.
Le sous-préfet de Logualé, Annie Désiré, à cette activité, exprime sa joie.
C'est une activité qui était la bienvenue, donc j'ai bien apprécié le soutien que l'ONG CAD et le gouvernement américain apportent à la réalisation de cette activité-là à travers l'USAID. Garantir l'accès, les droits des femmes à la terre, c'est garantir l'équilibre de la cellule familiale, à la stabilité d'une nation.
En fin d'activité, le chef du village et une habitante de Dinéguiné ont livré leurs impressions.
Golo Martin, je suis pour ce projet. Les femmes doivent accéder aux terres pour le développement propre de leur foyer d'abord. C'est ce qui va apporter la paix et le développement à Dinéguiné.
Teti Marceline, j'ai été très contente quand je vois que les femmes dans les partages, on doit les considérer avec la loi foncière, tout ce qui se dit dessus. On voit que les palabres qui sont dans nos villages vont beaucoup du mieux.
Il faut noter que cette activité à Dinéguiné permet d'introduire la campagne de sensibilisation de proximité que l'ONG CAD va bientôt enclencher à l'endroit de plusieurs cibles, notamment les propriétaires terriens, les jeunes et le comité villageois des gestions foncières. Stéphane Adams, Dinéguiné, Radio de la Paix.
Nous en arrivons à l'invité de la rédaction qui aujourd'hui est le vice-président du FPI chargé des questions électorales. Kwaku Kra se prononce à propos des listes proposées par son parti pour les élections locales, listes susceptibles de changer au vu de la signature de partenariat aujourd'hui avec le RHDP. Là-dessus, Kwaku Kra répond aux questions de Soro Adams.
Bonjour monsieur le vice-président Kwaku Kra.
Bonjour Soro Adams.
Votre parti, le Front Populaire Ivoirien, entendez le FPI, a rendu publique la liste de ses candidats potentiels aux élections locales du 2 septembre 2023. Alors, que devraient retenir les Ivoiriens concernant cette liste?
Bien, merci. À l'occasion du processus de choix interne, nous avons pu arrêter deux listes. Une liste du conseil régional sur les 31 régions. Nous avons pu couvrir 30 régions. 30 régions, c'est une région qui n'a pas eu de candidat pour le moment, la région de San Pedro. Au niveau des communes, nous avons pu couvrir 194 communes. Il reste donc 7 communes à couvrir.
Monsieur le vice-président, allez-vous les couvrir d'ici le rendez-vous des locales?
Pour le moment, notre objectif, c'est de préparer les candidats qui sont déjà retenus. Mais si, entre-temps, des candidats sont présentés dans cette commune, je pense que nous n'allons pas les rejeter. Mais sinon, notre objectif, c'est de s'en tenir aux 194 et de les préparer d'ici le 2 septembre 2023.
Et donc, comment qualifieriez-vous cette liste de candidats potentiels que vous avez présentée?
Je peux dire que en quantité comme en qualité, nous avons atteint nos objectifs en termes d'affichage du Front populaire ivoirien sur l'ensemble du territoire. Nous notons également une avancée par rapport à 2018. 2018, nous avons présenté 2 régions sur 31 régions. Nous avons présenté 12 communes sur 201 communes. Donc, il y a une amélioration, il y a une avancée. Donc, on peut noter par l'affichage, la présentation de ces candidats que le Front populaire ivoirien est un parti ancré sur l'ensemble du territoire national. Et la plupart de ceux qui portent ces candidatures sont des jeunes, ne sont pas tout à fait des figures marquantes de l'actualité politique en Côte d'Ivoire. Donc, c'est une liste qui est portée sur l'avenir.
Ça veut dire quoi?
Portée sur l'avenir, nous pensons au renouvellement de la classe politique à l'intérieur du Front populaire ivoirien comme au plan national, sorte que ceux que nous avons alignés puissent avoir de l'expertise et de l'expérience pour la conquête du pouvoir d'État dans les années à venir.
Monsieur le vice-président Kwaku Krah, cette liste restera-t-elle immuable ou bien elle pourrait changer à l'épreuve des alliances potentielles avec d'autres formations politiques?
La plupart de nos candidats sont sensibilisés du fait que nous aurons des alliances, notamment l'alliance avec le RIDP. Et il est bien indiqué qu'il va avoir des accords locaux devant permettre d'aller sereinement à ces échéances. Et si ces alliances locales portaient, ça allait donc certainement changer d'ici là la configuration de notre liste. Puisque pour le moment, tous ceux que nous avons lancés sont des têtes de liste et il pourrait arriver que certains soient sur des listes du RIDP et que certains du RIDP soient sur des listes du Front populaire ivoirien. Je peux dire que ce ne sont pas des listes immuables. Ce ne sont pas des listes immuables du fait des accords possibles que nous allons tenir avec nos alliés.
Est-ce seulement le RIDP l'allié potentiel?
Pour le moment, l'allié potentiel, c'est le RIDP.
Monsieur le vice-président Kwaku Krah, dans le choix opéré, la représentation des femmes, qu'en est-il dans cette liste?
Bien, merci. Nous en avons tenu compte, mais nous n'avons pas atteint l'objectif par rapport au choix des têtes de liste. Pour les régionales, nous avons pu avoir 6 femmes sur 30. Ça fait un taux de 20%. Pour les municipales, nous avons pu avoir un taux de 6%, 8 femmes sur 201 communes. Alors, il reste à établir les listes. Et dans ces listes, nous avons insisté sur le fait que le quota puisse être atteint pour combler le déficit au niveau des têtes d'élite. Le quota, c'est 30% des femmes. Sur les listes, nous allons tenir compte des 30% des femmes pour les conseils municipaux et les 30% pour les conseils régionaux. Et nous allons veiller à ce que ce quota soit respecté.
Je vous remercie, Monsieur le vice-président Kwaku Krah.
Je vous remercie.
Aujourd'hui, invité de la rédaction Kwaku Krah, le vice-président du FPI était interrogé par Soro Adams. C'est ce qui marque le point final de cette édition, dont voici le rappel des titres. Célébration hier de la fête du travail. Les centrales syndicales de Côte d'Ivoire ont exprimé leurs attentes au gouvernement ivoirien au cœur des revendications cette année, la revalorisation des salaires et le respect du salaire minimum. Et puis sur le continent, les combats qui font rage au Soudan rendent la situation humanitaire catastrophique. Merci pour votre fidélité. À 15h, retrouvons-nous pour un flash d'information. Mais avant, la revue de presse avec Jean-Claude Comé.
Bonjour à tous. L'actualité de ce mardi est marquée par plusieurs événements qui se sont déroulés.